Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Qui parle de durabilité parle également de développement durable. L'Afrique est au point culminant aujourd'hui. Tout ce qui concerne la durabilité doit être orienté vers le développement. Dans cette optique, l'économie durable y joue un rôle important. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour parler dans votre émission durabilité de tout ce qui est économie durable, nous retrouvons un spécialiste dans le domaine. Il s'agit de Florent Toto, également expert en tout ce qui est aussi projet économie durable. Bonjour à vous, monsieur Toto, et merci encore de répondre à notre invitation.
Oui, bonjour.
Alors,
que vous allez très bien.
Également. Alors, monsieur Toto, sans plus tarder, quels sont, selon vous, les principaux défis et opportunités liés à la promotion de l'économie verte inclusive en Afrique, notamment en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes?
Cette question est importante. D'abord, il faut qu'on donne une définition de qu'est-ce que c'est que l'économie verte inclusive. L'économie verte, en fait, c'est l'économie qui s'intéresse à l'amélioration du bien-être et de l'équité sociale. Elle s'intéresse à la bonne gestion des ressources naturelles tout en promouvant, en fait, des activités qui permettent de résoudre les problèmes tels que le chômage et le bien-être, et également le respect des droits humains et des droits de l'environnement. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que l'Afrique est l'un des continents les plus riches en ressources naturelles. Néanmoins, cette économie n'est pas encore vraiment promue. Des initiatives sont en cours de réalisation dans ce sens. Et on identifie plusieurs défis. Et ces principaux défis sont l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Les études ont prouvé que seulement 25% des jeunes ivoiriens accèdent au second cycle scolaire, qui les empêche et d'avoir des études beaucoup plus approfondies sur les domaines du secteur fait, tels que l'agriculture durable, l'énergie renouvelable et bien d'autres. À part ça, on note également l'exclusion au niveau du champ, où on note dans certains pays comme l'Égypte, où une bonne partie des femmes n'ont pas accès à des formations universitaires, donc ne pourront pas accéder à cette branche de l'économie. Et également, on note également l'accès au financement qui est très limité auprès des PME en Afrique, où des études ont prouvé que seulement 3% des PME africaines ont accès à des garanties publiques qui normalement devraient en fait leur permettre d'accéder à des financements auprès des banques pour pouvoir développer des activités liées à ce domaine.
Et donc, des activités liées à cela. Donc, aujourd'hui aussi, selon vous, M. Toto, quelles politiques publiques sont actuellement mises en place en Afrique pour soutenir l'économie verte et comment peuvent-elles donc être améliorées pour mieux favoriser l'insertion socio-professionnelle?
Aujourd'hui, au sein des pays africains, et chaque pays africain a en fait des stratégies nationales de développement durable. Et très souvent, au sein de cette stratégie, il y a un aspect politique qui permet en fait de développer en fait des projets, programmes pour pouvoir inciter les acteurs de ces domaines-là à mettre en œuvre des initiatives. Si nous prenons par exemple le cas de l'Afrique du Sud, ils ont initié en fait une politique en fait dénommée transition énergétique juste, qui vise en fait de réduire la dépendance en fait au charbon par rapport à l'usage en fait de l'énergie renouvelable. Donc l'État en fait oriente les acteurs du secteur énergétique à s'intéresser aux énergies renouvelables. Et pour cela, l'État met en œuvre un climat d'affaires favorable pour permettre à ces entreprises-là de s'intéresser à ce domaine et d'initier des projets d'entreprise dans ce domaine. Donc, c'est l'un des cas qui est dupliqué dans plusieurs pays où l'État donne des orientations stratégiques et également s'appuie sur des programmes et projets. Mais il y a d'autres acteurs tels que les ONG et les entreprises privées aussi qui s'imprègnent de ces politiques-là pour pouvoir développer eux également leurs programmes et projets.
Le programme et projet, pour parler de cela également, il faut noter aujourd'hui la possibilité de savoir, bien évidemment, partager. Justement, pouvez-vous partager des exemples de projets de développement durable ayant réussi à créer des opportunités économiques pour les jeunes et les femmes, notamment en Afrique?
Oui. L'un des programmes que j'ai trouvé très innovant très récemment, c'est le programme PRIE et Pierre Castel, qui est un programme qui vise en fait à récompenser les acteurs, que ce soit les jeunes, également les femmes, qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire en Afrique. Et ce programme consiste à les sélectionner, à leur donner un appui ou un conseil sur la structuration de leur entreprise afin qu'ils puissent mieux développer leur activité. Et leurs différentes activités varient. Il y a des producteurs qui font de l'agriculture biologique. Il y a des transformateurs qui font des produits bio ou non. Mais c'est relatif, en fait, beaucoup plus à tout ce qui est agroalimentaire, respectueux de l'environnement. Et donc, le prix permet un accompagnement et permet aussi l'accès au financement et renforce la visibilité de l'entreprise et de l'entrepreneur. Donc, c'est une initiative intéressante qui doit inspirer d'autres acteurs, en fait. À part ça, il y a aussi un projet nommé, en fait, Social Inclusive Business Camp, qui est développé par l'Agence française de développement, qui cible, en fait, des femmes entrepreneurs dans différents domaines relatifs à l'économie verte en Afrique. Et ce projet, en fait, crée des cohortes où ces femmes-là sont formées et il y a également un appui technique pour leur permettre de résoudre leurs problèmes majeurs pour pouvoir booster leur activité. D'ailleurs, actuellement, ils sont en cohorte actuellement pour une section de formation présentielle en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire également, par rapport à cette dynamique aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles au financement d'ailleurs et la formation des jeunes et des femmes dans les secteurs de l'économie verte et comment les surmonter?
Actuellement, les principaux obstacles que nous observons, c'est que une bonne partie des entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'économie verte sont dans le secteur informel, étant donné qu'ils sont dans le secteur informel. Et ça les empêche, en fait, d'accéder à des accompagnements, que ce soit les subventions, que ce soit des fonds auprès des banques, également même auprès de certains particuliers. Donc, l'objectif principal, c'est de permettre à ces acteurs-là de se formaliser progressivement afin de mieux capter les différentes opportunités, que ce soit en termes de renforcement de capacité et également d'accès au financement, afin de permettre le développement de leur structure et par ricochet cette branche de l'économie respectueuse de l'environnement et des droits de développement durable.
Les droits de développement durable, aujourd'hui, la question aussi qu'on aimerait plutôt vous poser aujourd'hui, c'est quel rôle donc peuvent jouer les partenariats publics-privés et également l'innovation technologique dans l'accélération de l'économie verte inclusive en Afrique?
Lorsqu'on parle de partenariat public-privé aujourd'hui, c'est l'un des modèles innovants d'accès au financement pour pouvoir développer des projets. Aujourd'hui, il y a des cas qui sont mis en œuvre où des entreprises françaises, par exemple, ont signé des accords avec le Maroc pour la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable. Et ça permet en fait de prouver que à travers la coopération internationale, on peut renforcer les liens entre les acteurs du public, du secteur public, également le secteur privé, pour pouvoir partager en fait les compétences et les connaissances à travers le transfert de technologies, et tout en renforçant en fait les liens qui sont actuellement en train d'être dégradés dans certains pays, les liens de coopération internationale, mais qui sont normalement primordiales pour pouvoir permettre en fait l'atteinte des ODD, puisque chaque pays a des avantages comparatifs sur le marché. Et donc, il faut nécessairement collaborer ensemble pour pouvoir développer des projets. Sur la sphère innovation technologique, et il y a beaucoup d'initiatives actuellement, que ce soit dans l'usage des applications mobiles, l'usage des drones. Et ça, c'est beaucoup plus pour le cas de l'agriculture, de l'agriculture durable, où il y a des applications qui permettent aujourd'hui de vulgariser les bonnes pratiques, également de permettre l'accès au marché. On note également des startups qui sont en émergence actuellement et qui permettent de développer des innovations technologiques pour la meilleure gestion des ressources sur différents plans, que ce soit des ressources maritimes et des ressources énergétiques et plein d'autres.
Et plein d'autres aussi. Et dernière question, Monsieur Toto, par rapport aujourd'hui à cet esprit de développement durable, l'économie durable également, quelles recommandations donneriez-vous aux décideurs politiques et aux acteurs de développement pour assurer un impact durable et inclusif de l'économie verte sur l'emploi des jeunes et des femmes?
Pour ce qui est des acteurs sur le plan secteur public, l'essentiel c'est que aujourd'hui, les acteurs du secteur public reconnaissent de plus en plus que on ne peut plus s'en passer aujourd'hui de l'économie verte, puisque pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable, à part le faire de développer des projets de développement à travers l'État, les ONG, les associations, il faut nécessairement que le secteur privé, à travers les entreprises nationales et internationales, puisse en fait promouvoir des produits éco-responsables qui permettent en fait de mieux gérer les ressources naturelles qu'on a, également de permettre une inclusion sociale pour nos jeunes et également pour les femmes. Donc, l'orientation stratégique, et ça, c'est le rôle de l'État. Donc, l'État doit, et les États, en fait, doivent normalement, comme ils le font déjà, développer des stratégies et de politique publique pour pouvoir orienter les acteurs du secteur privé vers ces domaines-là. Donc, il faut étudier par pays les ressources disponibles, étudier en fonction de ces ressources quels sont les domaines qu'on peut développer en se basant sur la gestion rationnelle de ces ressources pour pouvoir permettre la création de valeur ajoutée et également l'inclusion sociale. Et c'est le travail de l'État. Mais l'État ne pourra pas le faire sans une synergie entre les autres acteurs, tels que les acteurs de la coopération internationale et également les acteurs du monde associatif, les ONG, les associations, et sans oublier les entreprises du secteur privé.
Les entreprises du secteur privé, tout ça pour parler également aujourd'hui de l'économie verte, mais également la durabilité de nos ressources, une politique également adaptée à l'évolution du monde, une politique d'économie durable. Et nous avons parlé de ce sujet avec un expert du domaine, Florent Toto. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation.
Je vous en remercie.
Et merci également à vous, chers amis auditeurs, de la durabilité, de votre confiance renouvelée à cette émission sur la durabilité. Merci encore. Rendez-vous pris pour un prochain numéro. Au plaisir.